le groupe Winch fait encore parler de lui.
J'ai vu Chang, il était vivant, il m'a appelé au secours.
Voyons, Tintin.
Non, capitaine.
J'irai Calibre à la place de cette fille de bleu Calibre.
Non, Obélix, non, et tu sais bien. Je vais tomber dans la marmite des gens bébés.
Tu dois être Caroline. Toi, tu dois être Bill. Et je parie que ce gentil chien, c'est Boule.
Ah, oh, c'est trop gentil, Schtroumpf Coquet.
Oh oui, mon petit Schtroumpf Coquet. Tu es superbe, c'est bien le mot.
Le bouquet des bulles.
Toute la BD, rien que la BD.
Aujourd'hui, un héros de cap et de paix. Vous l'avez sans doute remarqué. Si les librairies sont à nouveau ouvertes, les étals ne sont pas encore remplis de nouveautés. Les éditeurs les ont retenus en attendant de savoir à quelle sauce les pages de livres seraient dévorées. C'est pourquoi j'ai peut-être fait comme vous, j'ai relu mes classiques. Et parmi ceux-ci, il y a un héros de bande dessinée qui, s'il existait, serait probablement la cause de tous nos maux, de tous nos malheurs. Le fameux Patience Zéro. Je veux parler de... Et oui, l'homme chauve-souris en personne, celui qui n'est pourtant pas chauve et qui ne sourit jamais. Mais peu importe, ce personnage, créé en 1939 par le dessinateur Bob Kane et le scénariste Bill Finger, et publié chez DC Comics, est la deuxième figure de proue du vaisseau DC après Superman, créé en 1933 par le scénariste américain Jerry Siegel et le dessinateur canadien Joe Shuster. Contrairement à son illustre prédécesseur et à la quasi-intégralité des héros de comics américains, Bruce Wayne, alias Batman, ne possède aucun pouvoir si ce n'est celui de l'argent, ce qui n'est déjà pas si mal. Personnage fortuné, mais aussi torturé, il ferait le bonheur de tous les psys de Gotham City et par extension du monde entier. Cet univers foisonnant est peuplé de méchants, très méchants, et hauts en couleur comme...
Voici les quatre infâmes gredins contre lesquels nous luttons. La femme chat.
Vous assisterez au plus parfait des crimes quand je tiendrai Batman dans mes griffes.
Le Joker.
Cette farce sera la dernière, elle sera fatale, Batman.
Le pingouin.
Le pingouin n'est pas manchot, ils vont la prendre à leurs dépens, Batman et Robin.
Le sphinx.
Question. Qui saura mettre au point la trappe, Nigo, qui enverra Batman et Robin sur le carreau?
Ou encore double face. Des méchants qui hantent les bas-fonds de Gotham, une espèce de New York dégénéré. Avec la naissance de Batman, les créateurs ont posé la deuxième pierre d'une trinité à laquelle viendra s'ajouter Wonder Woman en 1941. Tous les autres grands super-héros verront le jour chez Marvel. Pour la création de ce personnage sombre comme son costume, Bob Kane s'est inspiré des études de Léonard de Vinci sur la chauve-souris et avoue avoir été influencé aussi par les films de Douglas Fairbanks pour l'action et en particulier par le film Le Masque de Zorro dans sa version de 1920. On y retrouve par exemple la grotte secrète dans laquelle le héros troque son identité publique contre celle du vengeur masqué. Après ses premiers succès, la bande dessinée connaîtra un trou d'air dans les années 60 avant l'arrivée de la série télévisée qui la relancera. 120 épisodes seront diffusés entre 1966 et 1968. Pensez donc, 60 épisodes par saison, c'était du stakhanovisme à l'époque. En tout cas, ces épisodes restent un délice kitschissime.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait. Bientôt, très bientôt, Batman et moi, nous vivrons pour votre plaisir et votre distraction une de nos plus extraordinaires aventures.
Mais c'est réellement en 1986 que Batman se renouvelle vraiment sous les plumes de divers auteurs. Naîtront ainsi plusieurs titres, dont certains sont considérés comme les plus iconiques de l'histoire du héros ailé. Parmi ces titres, j'ai choisi trois intégrales à découvrir ou redécouvrir d'urgence. Tout d'abord, The Dark Knight Returns, par Frank Miller. Denis O'Neill, ancien scénariste de la saga, devenu rédacteur en chef de tous les titres de Batman, explique les circonstances d'une renaissance.
En 1986, l'équipe éditoriale de DC Comics décida que les héros maison, dont certains avaient déjà plus d'un demi-siècle, étaient datés. un coup de jeune intensif était devenu nécessaire. Les scénaristes et dessinateurs chargés de la besogne eurent vite des idées sur la manière de mettre Superman et Wonder Woman au goût du jour. Mais Batman posait un problème. Il était très bien comme ça. On pouvait juste lui donner un peu plus de profondeur et de complexité. Frank Miller se porta volontaire. Il était l'auteur le plus complet, certains disaient le meilleur de tous les temps.
Frank Miller commença donc en solo The Dark Knight Returns, le comic où l'on voit le combat final entre Batman et Superman. Cet album, qui est en fait la compilation des histoires parues en comics en 1986, est une étape inattendue et forte de la légende du héros, qui revient à plus de 50 ans remettre de l'ordre à Gotham. Rongé par un corps vieillissant et par la mort de Robin, Batman devient presque un héros ordinaire. Les réflexions qu'il lâche au cours de l'histoire ne laissent aucun doute sur son état. « Trop vite, la douleur envahit mes triceps et ma poitrine. J'oublie tout le temps à quel point tout est devenu plus difficile. » Ou encore, « La douleur, vieille de 3 jours, court le long de mon dos. Je secoue mes articulations ankylosées et je grimpe. C'était plus facile dans le temps. » Cet album est passionnant, car il est celui de la renaissance de Batman, le début d'une nouvelle ère qui donnera probablement le coup d'envoi de la saga Batman au cinéma. Il est aussi un Batman très politique, mettant en scène un Superman au service de la Maison Blanche et d'un Reagan omniprésent et ridiculisé à souhait, comme Trump le serait aujourd'hui. Cet album est aussi sombre que son titre. Je ne suis personnellement pas un grand fan du dessin de Miller, que je trouve parfois trop sommaire, mais il est une étape indispensable et fascinante dans la renaissance de la série. Ne serait-ce que parce qu'il nous interroge sur la justice, la démocratie, le bien et le mal, il reste un album culte à ne pas manquer. Toutes ces réflexions et la profondeur du héros sont le fruit de l'imagination fertile de Frank Miller, que l'on retrouve au scénario de la série suivante, dont je préfère nettement le dessin. Celui de David Mazzucchelli. Denis O'Neill raconte.
Ayant imaginé la fin de Batman, Miller était désireux et impatient de recréer le personnage, mais il choisit d'abandonner alors son rôle de dessinateur. Il voulait n'adopter ici que la fonction de scénariste. Le collaborateur qu'il choisit fut David Mazzucchelli, venu d'assez fraîche date à la bande dessinée, mais déjà réputé comme l'un des talents les plus extraordinaires du métier. Il possédait une maîtrise totale de la composition, un sens visuel dramatique puissant et un œil acéré pour des détails cruciaux aptes à donner vie à une scène. Publié à l'origine en 4 parties, Batman année 1 est présenté ici sous la forme organique initiale que Frank Miller et David Mazzucchelli avaient imaginée. Un roman graphique qui apporte à ce mythe urbain si familier une sensibilité moderne et un sens du récit tout à fait brillant.
Autant le dire, pour les amateurs de Batman et les BD-files confondus, cet album est une légende. Non seulement on y revisite sous le trait inspiré, dynamique et expressif du dessinateur la naissance de Batman, mais on découvre l'arrivée de James Gordon, jeune policier tiraillé par son devoir, son sens de la justice et sa vie sentimentale. Sans oublier Selina Kyte qui va se découvrir une vocation de Catwoman. En bonus, à la fin de l'album, ne ratez pas les sublimes crayonnés ainsi que la postface en BD de David Mazzucchelli qui livre quelques clés de son rapport au personnage de Batman.
Je ne me souviens plus si mon premier contact avec Batman a eu lieu sur un écran de télé ou sur papier, mais mes souvenirs d'enfance combinent joliment les deux. En tout cas, c'était en 1966, l'année de mes 6 ans, joli trio de 6. Beaucoup de mes dessins cette année-là sont de Batman. À propos de la genèse du héros, il explique « L'origine de Batman est fonction de circonstances. Pas de meurtre de ses parents, pas de Batman. Je n'ai jamais été à l'aise avec la vengeance comme un idéal héroïque. » Mais Miller l'explique bien. C'est clairement un homme qui a une mission, mais celle-ci n'est pas la vengeance. Bruce est plus grand que ça, plus noble aussi. Il veut que le monde soit un endroit meilleur, où jamais un jeune Bruce Wayne ne serait une victime. En un sens, il veut se rendre lui-même superflu. Batman est un héros qui rêve de ne pas avoir à exister.
Mazzucchelli fait enfin une analyse intéressante sur le rapport de Batman à Robin.
À cause de leur simplicité, les super-héros sont des proies faciles pour les révisionnistes. En 1954, le docteur Frederick Wertham vit dans les rapports de Batman et Robin la métaphore codée d'une relation homosexuelle. D'abord, souvenons-nous que les BD de super-héros ont été inventés pour les enfants, les garçons en fait. Wertham commit l'erreur fondamentale d'examiner ses comics avec la sensibilité d'adulte et sans humour. Voilà comment je vois les choses. Quand Bruce Wayne était petit, sa vie idyllique d'enfant gâté a été brisée. Depuis lors, il essaie de la réparer. Il est tout à fait logique que son meilleur ami ait 12 ans, parce que Batman est toujours un gamin coincé dans un corps d'adulte. S'il y a une pancarte « pas de filles » à l'entrée de leur caverne, cabane secrète, c'est parce que les filles, c'est nul. C'est pourquoi Catwoman est dangereuse. Elle représente une maturité qui effraie les garçons.
Personnellement, je me demande ce que penserait Michael Jackson de cette version. Il est à noter que Frank Miller a tout de suite réintroduit un Robin totalement inattendu dans The Dark Knight Returns. Je vous en laisse la surprise. Le dernier album de ma sélection du jour est Batman Silence par Jeff Loeb et Jim Lee. J'aurais tendance à dire le meilleur pour la fin, tant je suis fasciné par la virtuosité du trait de Lee. Un trait moderne, puisque l'album date de 2003, qui rapproche Batman de sa version cinématographique, tant les plans sont léchés, les cadrages époustouflants, la mise en page ébouriffante et le trait hallucinant. Sans parler des couleurs, chaque page est un tableau de maître. Vous l'aurez compris, je suis absolument fan de ce pavé de plus de 400 pages rempli de rebondissements et de méchants, vraiment très, très méchants, face à un Batman un peu diminué, mais non dénué de son légendaire courage. Le milliardaire est devenu, ironie du sort, le propriétaire du Daily Planet, journal quotidien qui, rappelons-le, emploie Clark Kent, plus connu sous le nom de Superman, et sa jeune épouse, Lois, qui se moque gentiment des deux super-héros d'un sarcastique « C'est ça, allez jouer dans vos collants tous les deux ». Régalez-vous enfin des sublimes bonus de ce magnifique ouvrage et de l'entretien passionnant des auteurs à lire uniquement à la fin de l'album puisqu'il livre quelques anecdotes à propos du scénario et des personnages. Ils remettent en perspective une certaine façon de travailler inhérente à la livraison mensuelle d'histoires en vue de leur parution. Elle nécessite une discipline et une organisation dont les auteurs parlent sans détour, mettant en avant les chevilles ouvrières de leur travail, à savoir l'encreur Scott Williams, le lettreur Richard Startings et le coloriste Alex Sinclair. On y apprend aussi beaucoup sur la relation scénariste-dessinateur. Jim Lee, le dessinateur donc, explique
« Je sais que certains dessinateurs illustrent les scripts sans jamais parler aux scénaristes. J'en suis incapable. Je ne comprends pas comment on peut travailler ainsi. Dès le départ, Jeff m'a dit qu'il me téléphonerait tous les jours parce qu'il fonctionne comme ça. Et c'est ce qu'il a fait, loué soit-il. Parfois, il m'appelait 3 à 4 fois par nuit. Il aurait fallu retranscrire toutes les conneries qu'on a pu se raconter. »
On est loin de la manière de travailler à la franco-belge. À l'instar des Japonais, les Américains fonctionnent en studio. Jim Lee parle d'ailleurs de tous ces bambins qui cravagent dans son studio et rajoute « Travailler seul finit toujours par sonner le glas de la créativité. Chacun a son cheptel de Robin, de Batgirl et d'Alfred. » À méditer. Choisir la crème de la crème dans Batman est comme hésiter entre la pavlova et le fondant au chocolat de chez Picorette. J'aurais pu aussi vous parler des deux grands albums que sont Long Halloween et Killing Joke, sans compter la production en cours. Bref...
Cramponne-toi, Robin. Cette fois, c'est peut-être bien la fin. Et ce n'est là qu'un bref échantillon des exploits et des extraordinaires aventures de Batman et Robin.
Alors n'oubliez pas de voir la suite. Faites un nœud à votre mouchoir.
Ce sera le mot de la fin.